Aujourd'hui, pour la prédication, nous allons étudier ensemble un texte qui nous conduit vers la joie, on va rester dans ce thème, la joie de Dieu, mais aussi la joie de ceux et celles qui croient en lui. Cette prédication a été inspirée par une méditation que j'ai reçue lors de ma dernière rencontre avec mes collègues de la région Nouvelle-Aquitaine, et c'est mon beau-père Guy Delarbre, pasteur à Orthez, qui nous avait apporté une courte méditation sur ce texte, et ça m'a profondément touché. Tellement ça rejoignait ce que nous vivons actuellement sur Angoulême et ce vers quoi nous sommes encouragés à œuvrer, ce vers quoi nous voulons travailler. Alors j'aimerais vous inviter à lire ensemble un récit dans le livre des Actes au chapitre 3, les versets 1 à 11. Actes chapitre 3, les versets 1 à 11. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y apporter un infirme, c'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent leurs yeux sur lui. « Regarde-nous, » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit se lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et il louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Ce texte est intéressant parce que c'est avant tout un exemple parfait de ce que j'aime appeler le temps de Dieu pour les humains. Et là, je fais un petit rappel de ce que nous avons vécu durant notre week-end de rentrée d'église il y a 2 semaines. Durant ce week-end, nous avons reçu un atelier sur le témoignage et l'annonce de l'Évangile. Et une des choses centrales dans cet atelier, c'était de discerner, de rechercher le temps de Dieu pour notre entourage, pour nos proches, notre famille, nos collègues ou nos amis. Tout le monde n'en est pas au même stade de sa recherche spirituelle. Certains sont simplement satisfaits de leur vie sans Dieu. Ils ne se posent aucune question sur Dieu et ils ne veulent pas s'en poser. Nous avons vu que pour ces personnes, nous pouvons prier, nous pouvons développer une amitié sincère, nous devons les aimer. Témoigner peut-être, mais ça ne les intéressera pas forcément. D'autres, en revanche, ressentent un vide, un manque dans leur vie, un vide qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne savent pas comment combler. Alors ils cherchent un peu dans tous les sens comment combler ce vide, que ça soit par des choses de ce monde ou par une recherche de Dieu. Nous avions vu que pour ces personnes, il nous faut à la fois prier, aimer, mais aussi témoigner, parler de notre vie avec Dieu pour nourrir leur recherche dans la bonne direction. D'autres, enfin, sont allés plus loin. Ils se sont renseignés sur Dieu, ils ont pu parler avec les chrétiens de leur entourage. Ils ressentent que Dieu est la solution pour leur vie, la solution au vide qu'ils ont dans leur vie. Avec ces personnes, nous pouvons annoncer le message du salut en Jésus-Christ et nous pouvons leur proposer de prier ensemble pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Tout le monde n'en est pas au même moment de sa recherche de Dieu. Et ce n'est pas nous qui décidons de ce moment. C'est Dieu qui chemine dans le cœur de ceux et celles qui nous entourent. Moi, je dois discerner le temps de Dieu pour les autres. Mais si je me décharge totalement sur Dieu, je peux en venir simplement à attendre que Dieu agisse, sans rien faire moi-même, qu'il fasse son œuvre dans les cœurs, et puis c'est tout. L'état spirituel de mes proches, en fait, peut devenir une habitude pour moi. Les besoins spirituels de mes proches peuvent devenir une habitude. Je peux prendre l'habitude de simplement attendre que Dieu agisse. Et mon action envers mes proches peut également devenir une habitude qui ne va jamais plus loin, qui n'essaie pas de franchir un nouveau cap. Si j'ai pris l'habitude qu'un ami ne me pose pas vraiment de questions sur Dieu, je vais peut-être prendre l'habitude, oui, de prier pour lui, de vivre une amitié sincère, sans chercher à aller plus loin. Si j'ai pris l'habitude qu'un ami se pose des questions sans s'impliquer plus que ça dans sa recherche de Dieu, eh bien, je vais lui parler de temps en temps de ma vie avec Dieu, mais sans chercher à aller plus loin. C'est vrai, il nous faut respecter le temps de Dieu pour nos proches, mais il nous faut garder à l'esprit que nos proches ont surtout besoin d'aller plus loin, de franchir un pas supplémentaire qui les rapprochera de Dieu. Et bien souvent, Dieu nous utilise pour être ce que j'appelle des agents de sa grâce. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors la grâce, ça va être un mot très important dans cette prédication. Je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais il va venir peut-être des dizaines de fois. Alors, on va l'expliquer d'abord. Écoutez bien, la grâce, c'est un mot qui désigne tous les cadeaux merveilleux et gratuits, immérités, que Dieu veut faire aux êtres humains. La grâce, c'est tous les cadeaux de Dieu pour les humains. C'est bon pour le mot grâce ? Parce que dans cette prédication, il va vraiment, vraiment beaucoup revenir. Eh bien, Dieu nous utilise pour être des agents de sa grâce, afin que nos proches, notre entourage, puissent passer d'une grâce à une grâce encore plus grande. C'est-à-dire qu'ils passent d'un cadeau de Dieu à un cadeau encore plus grand, encore plus merveilleux. Dieu nous utilise pour cela. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il se passe dans notre texte. Ce texte nous parle d'un homme, un infirme, paralysé depuis sa naissance. Cet homme a des besoins immédiats assez évidents, il a besoin de gagner de l'argent pour vivre, mais à son époque, dans son état, il ne peut pas travailler. Alors son entourage, ses proches, ont pris l'habitude de l'amener au temple pour que tous ceux qui croient en Dieu puissent l'aider par leur générosité, puissent lui montrer de l'amour. C'est ce que nous dit le texte. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Tous les jours, c'est une habitude. On amène cette personne près du temple pour que les croyants, tous les jours, puissent lui montrer leur amour, leur aide et leur soutien. Mais le handicap de cet homme ne lui permet pas, à l'époque, de se rapprocher plus près de Dieu. En effet, les infirmes n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Ils pouvaient rester dans la cour extérieure, celle où même les non-croyants, les non-juifs pouvaient venir également, mais ils ne pouvaient pas franchir le pas supplémentaire pour aller avec le reste du peuple de Dieu, dans la cour intérieure du temple. Cet homme avait pris l'habitude de rester avec les non-juifs, c'est-à-dire ceux et celles qui s'interrogent sur Dieu, qui viennent peut-être au temple, mais qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Et alors deux disciples du Christ, Pierre et Jean, viennent au temple. Pierre et Jean sont juifs, ils ont donc l'habitude de venir au temple. Et si cet homme était placé à côté de la porte tous les jours, ça veut dire forcément que Pierre et Jean l'ont vu, peut-être des dizaines ou des centaines de fois, en train de mendier. Eux aussi, comme tous les autres juifs, qui reconnaîtront l'infirme, hein, après le miracle, tout le monde le reconnaîtra, ils ont pris l'habitude de voir cet homme à l'entrée du temple, à la porte. Des centaines de fois, Pierre et Jean l'ont vu sans rien faire et sans rien dire. Alors qu'est-ce qui change cette fois ? Eh bien, c'est avant tout le moment de Dieu qui a changé dans notre texte. Au moment de notre récit, Pierre et Jean ont déjà été les disciples de Jésus durant tout son ministère sur terre. Le Christ est déjà mort sur la croix, puis ressuscité pour pardonner nos fautes. Pierre et Jean ont assisté à son ascension, et à la Pentecôte, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit de Dieu qui leur permet d'avoir une relation intime avec Dieu, et également qui leur permet de rentrer dans la mission que Dieu a prévue pour eux. Les habitudes de vie de cet homme infirme n'ont pas changé, mais le temps de Dieu, à cette époque, a complètement changé. Comme tous les jours, l'infirme est amené à la porte du temple. Et ce n'est pas n'importe quelle porte. On l'appelle la belle porte. Et souvent dans la Bible, quand l'auteur cite un détail, il a un but. C'est vrai, il aurait pu dire à la porte, tout simplement. Pourquoi ce détail ? Pourquoi pas simplement la porte du temple ? Pourquoi ce nom ? Eh bien parce que le nom de cette porte a un sens symbolique, qui nous aide à comprendre ce qui se passe. On appelle cette porte la belle porte. Et l'expression grecque, parce que le texte est en grec, en original, que l'on traduit ici par belle porte, veut aussi dire porte de la bonne heure ou porte du bon moment. Les habitudes de l'infirme n'ont pas changé. Il ne cherche peut-être pas Dieu plus qu'avant, je ne sais pas, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. Il ne cherche pas la guérison ce jour-là. Il se contente de rester à l'entrée du temple sans se joindre au peuple de Dieu. Le texte ne nous dit pas ce qui se passe dans son cœur. Mais dans son cœur, nous le voyons par ce récit, le moment était venu pour lui de faire un pas de plus. Un pas de plus dans tous les sens du terme. C'était le moment de Dieu pour lui. C'était le moment dans son cœur pour rencontrer Dieu. Rien ne semblait le montrer. Il n'y avait aucune différence visible et personne n'a rien vu, sauf Pierre et Jean, qui sont restés attentifs à la conduction du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu, par son Esprit en nous, qui peut nous permettre de discerner le temps de Dieu pour nos proches. Dans notre vie de disciple, notre vie de témoin du Christ, nous devons rester dépendants du Saint-Esprit. Dans nos prières, demandons à Dieu de nous guider dans notre relation avec nos proches. Demandons-lui de nous montrer comment il est en train de travailler dans le cœur de ceux et celles qui nous entourent. Demandons-lui de nous rendre sensibles à la conduction de son Esprit en nous. Et soyons prêtes à suivre le Saint-Esprit, là où il nous conduira. Il n'y a aucune crainte à avoir parce que Dieu prévoit toujours la réussite, l'accomplissement de ses projets, même les plus incroyables. Soyons donc prêts et prêtes à nous laisser conduire et à suivre le Saint-Esprit là où il nous conduira. Dans notre récit, à cette porte du bon moment, Pierre et Jean ont été sensibles à la conduction de l'Esprit de Dieu. Alors ils n'ont pas hésité à changer leur comportement vis-à-vis de l'infirme. Ils n'ont pas hésité à changer leur attitude parce que Dieu les y appelait. Et ils se sont approchés de cet homme parce qu'ils avaient conscience que Dieu faisait d'eux des agents de sa grâce pour que cet infirme passe d'une grâce à une autre grâce encore plus grande, qu'il passe d'un cadeau de Dieu à un autre cadeau encore plus merveilleux. Cet infirme recevait déjà, avant ce jour-là, un cadeau de Dieu. L'aide matérielle des membres du peuple de Dieu, cet amour concret qui lui était montré. C'était déjà une grâce fabuleuse, c'était déjà un cadeau fabuleux. Lorsque Dieu nous envoie donner son amour, aider, consoler, nourrir ceux et celles qui en ont besoin, nous sommes, en tout cela, des agents de sa grâce. Parce que ces personnes sont au bénéfice déjà d'une grâce de Dieu, un cadeau de Dieu. L'aide, l'amour, la compassion, l'écoute qui viennent du peuple de Dieu. Mais est-ce que Dieu n'a pas prévu, en réserve, d'autres grâces encore plus grandes pour nos proches, d'autres cadeaux encore plus merveilleux ? Dans notre texte, l'infirme va passer d'une grâce à une autre grâce infiniment plus grande, et Pierre et Jean, sensibles à la conduction de l'Esprit de Dieu, vont être les agents de la grâce divine. Ils vont s'approcher de l'infirme et ils vont lui faire deux cadeaux fabuleux. Oui, deux cadeaux, pas un seul, mais deux. Le premier cadeau est évident, c'est celui que tout le monde remarque en lisant ce texte. Lève-toi et marche. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Si tu peux passer. Voilà. L'infirme de naissance est guéri. Amen, gloire à Dieu, quel cadeau immense, fabuleux, être au bénéfice d'un miracle de Dieu. On n'ose parfois même pas l'espérer, on ose à peine l'imaginer, et nous avons encore plus de mal à imaginer que Dieu peut nous appeler à être les agents d'une grâce miraculeuse aussi fabuleuse. Et pourtant, Pierre et Jean sont restés sensibles à la conduction du Saint-Esprit et ils étaient prêts à le suivre n'importe où, vers n'importe quel acte, parce qu'ils savaient que Dieu réalise toujours ses projets. Alors, ils ont été les agents de Dieu pour ce premier cadeau fabuleux. Mais cet infirme a reçu également un deuxième cadeau. Un cadeau plus grand encore. Un cadeau qu'on oublie presque tout le temps dans ce texte et qui pourtant, pour moi, éclipse presque totalement même le miraculeux du premier cadeau. Je vous relis ce passage. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Et plus loin d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vient s'y marcher et louer Dieu. Cet homme vient de recevoir le plus beau des cadeaux. Il vient de recevoir Jésus. Le texte ne nous raconte pas ce qui se passe dans son cœur, mais les paroles de Pierre et la réaction de l'infirme nous le montrent. Il vient de recevoir Jésus dans son cœur. Parce que Pierre lui parle du Christ et lui loue Dieu. Donc il reconnaît que le Christ est Dieu. Et au lieu de se lever, de sauter de joie et d'aller courir prévenir sa famille ou ses voisins ou la ville entière, cet homme entre dans le temple, ce temple dont il n'avait jamais pu franchir les portes. Il entre dans le temple de Dieu pour rejoindre enfin le peuple de Dieu, être avec eux, parmi eux, en tant lui-même que membre du peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, sauvé par Jésus-Christ de ses fautes, guéri par le Saint-Esprit de Dieu de son infirmité. Il loue, il l'adore, il célèbre la gloire de ce Dieu qui est maintenant son Dieu. Jésus est devenu le Sauveur et Seigneur de sa vie. Voilà la plus grande de toutes les grâces qu'a pu recevoir cet homme ce jour-là. Oui, sa guérison fut un pas immense dans sa vie, mais le cadeau qui lui a permis de faire un pas encore plus grand, c'est le cadeau du salut en Jésus-Christ. Sa guérison lui permet effectivement de marcher durant sa vie sur terre, mais son salut en Christ lui assure de pouvoir marcher avec Dieu, au sein du peuple de Dieu pour l'éternité. Sa guérison physique, si importante qu'elle soit, n'est que l'image, un reflet, un pâle reflet de la guérison bien plus fabuleuse qu'il vient de vivre dans son âme. En restant sensible à la conduction du Saint-Esprit, en désirant être des disciples fidèles qui recherchent et accomplissent la volonté de leur maître, eh bien, Pierre et Jean ont pu être les agents de cette grâce incroyable de Dieu. La grâce de la guérison physique, c'est vrai, mais surtout, surtout, la grâce de la guérison spirituelle. Ils ont été des agents du salut de Dieu en Jésus-Christ. Trois petites choses, simplement pour conclure. Première chose, Pierre et Jean, c'était des apôtres. Les premiers disciples de Jésus qui avaient vécu avec lui pendant tout le ministère du Christ sur terre. Et nous alors, qu'en est-il de nous? On n'est pas des apôtres quand même, que je sache. Eh bien, lisons simplement un passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau et déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. » Que ce soit les premiers disciples, comme Pierre et Jean, ou nous-mêmes, disciples de Jésus presque 2000 ans plus tard, Dieu a fait de nous tous des agents de sa grâce, des ambassadeurs de sa bonne nouvelle pour toute l'humanité. Alors prenons exemple sur Pierre et Jean. Ils n'avaient aucun pouvoir particulier. Ils désiraient simplement être des disciples fidèles, des disciples qui aiment leur maître, qui vivent une relation quotidienne avec leur Seigneur, qui restent dépendants à chaque instant de l'Esprit de Dieu et qui désirent être prêts à le suivre pour agir et parler selon ce vers quoi l'Esprit les conduirait, en recherchant le bon moment de Dieu pour eux-mêmes, mais surtout le bon moment de Dieu pour les autres. Prenons exemple sur eux, dans notre relation à Dieu, dans le regard que nous portons sur notre entourage, dans la fidélité et la dépendance à Dieu. Deuxième petite chose, deuxième conclusion, ne prenons en revanche pas exemple sur les autres personnes qui étaient dans le temple. Voyant la grâce fabuleuse que Dieu a accordée à cet homme, ils ne se réjouissent pas. Ils ne l'accueillent pas parmi eux. Ils ont peur. Je vous relis ce passage. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Sachons être des agents de la grâce de Dieu, mais aussi des enfants de Dieu qui reçoivent avec joie la grâce que Dieu distribue autour de nous. Sachons accueillir sans méfiance, d'un cœur débordant d'amour et de joie, tous ceux et celles qui reçoivent la grâce du salut en Jésus-Christ. Et enfin, ce sera la troisième et dernière conclusion. Prenons exemple sur Pierre et Jean dans leur humilité. Ils viennent d'être les agents de la grâce de Dieu d'une manière incroyable, miraculeuse, fabuleuse. Mais ils ont parfaitement conscience qu'ils n'ont rien accompli du tout. Eux-mêmes n'ont reçu qu'un cadeau de plus, le cadeau d'être des agents de la grâce de Dieu. Alors immédiatement, eux-mêmes, dans ce texte, rendent toute la gloire de ce qui vient de se passer à Dieu et à lui seul. Et je vous lis simplement ce qui suit, le passage qu'on avait lu, cette fois au verset 12. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer ? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme ? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur, Jésus. » Par notre relation à Dieu, par notre amour grandissant envers Dieu, par notre dépendance du Seigneur, en restant sensible à la conduction de son esprit, en étant prêt et prête à suivre le Seigneur et en restant humble en toute situation, en cherchant à rendre gloire à Dieu et à lui seul en toute chose, devenons ensemble ce à quoi Dieu nous destine, ce à quoi Dieu nous appelle, être des agents de sa grâce, des ambassadeurs de son salut. Ne passons pas à côté des gestes ou des paroles de grâce qui permettent à nos proches de vivre une grâce encore plus grande. Soyons des agents de la grâce du Seigneur et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur car tout cela s'accomplit par la seule puissance de celui qui procure la vie, qui procure l'épanouissement, la restauration, le pardon et la guérison pour la seule gloire de Dieu. Amen.